accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Une semaine après le vote britannique en faveur du Brexit, l'onde de choc se fait encore sentir partout en Europe et l'on commence à en mesurer vraiment toutes les conséquences. Une décision qui suscite aussi parfois des interrogations sur le dossier de l'immigration, notamment en France, à Calais, où vivent entre 4500 et 6000 migrants. Depuis 2003 et les accords du Touquet, c'est du côté français de la Manche que la frontière britannique a été fixée. Les contrôles policiers s'effectuent à Calais. Conséquence, des milliers d'exilés qui souhaitent se rendre en Grande-Bretagne s'y retrouvent bloqués. La ville est devenue un véritable goulot d'étranglement. Sur place, les résultats du référendum britannique ont donc été suivis de très près. C'est un reportage d'Alice Posicky.
Dans l'immense hangar de l'association L'Auberge des Migrants, des dizaines de petites mains s'affairent en musique. Charles Harris est bénévole pour le week-end. Il trie des vêtements qui seront bientôt distribués aux migrants de Calais. Charles est venu d'Angleterre avec sa femme. Tous les deux ont voté pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne.
Le résultat m'a déprimé. J'ai ressenti tellement de tristesse pour mon pays. Je pense qu'on vient de faire un pas de géant en arrière. On est revenu directement en 1971 et peut-être même à 1930.
Plus que tout, Charles déplore les raisons qui ont poussé les Britanniques à voter Leave, parmi lesquelles la peur de l'immigration.
Je pense que beaucoup de gens se sont laissés berner par le discours ambiant qui martèle qu'on est submergé par les migrants. Mais c'est faux. Je crois que la Grande-Bretagne a toujours été généreuse avec les gens qui voulaient s'installer ici et ça lui a toujours été bénéfique. Depuis les Huguenots, les Français venus ici, jusqu'aux Juifs, aux Polonais, aux Russes, ce sont aussi ces gens qui ont fait de la Grande-Bretagne ce qu'elle est aujourd'hui.
À quelques kilomètres de là, la distribution de vêtements a commencé dans la jungle de Calais. Le camp de Fortune abrite entre 4500 et 6000 exilés venus d'Afghanistan, du Soudan, de Syrie ou d'Érythrée.
My name is Adnan Shahid. I'm from Pakistan. I am 20 years old.
Adnan a 20 ans et vient de Parachinar au Pakistan. Cela fait 6 mois qu'il tente de rejoindre l'Angleterre, en vain.
Je ne pourrais même pas vous dire combien de fois j'ai essayé de passer. Je m'en souviens pas. J'essaye tous les jours. Toutes les nuits, chaque fois que je peux, je fais tout mon possible pour y arriver. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi.
Depuis les accords du Touquet en 2003, les contrôles policiers s'effectuent à Calais. Avec la crise migratoire, ils se sont intensifiés. La frontière est devenue presque étanche. Adnan a entendu parler du référendum britannique. Il a souhaité en savoir davantage et s'est donc tourné vers un ami anglais.
Je lui ai posé plein de questions comme « Que se passera-t-il pour la jungle de Calais et pour l'Angleterre ?» Il m'a dit que le cours de la monnaie allait chuter, que toute l'économie, les finances allaient s'effondrer. Il m'a dit que les Britanniques voulaient aussi décider de leurs propres règles en matière d'immigration, qu'ils voudraient peut-être en finir avec l'accueil des réfugiés. Il n'y aurait donc plus aucune chance pour nous de s'installer là-bas. Après le référendum, la frontière serait complètement étanche. J'ai perdu tout espoir.
A l'inverse, le Brexit a rendu Shahed Kesh très optimiste. Ce médecin afghan est arrivé à Calais il y a un mois avec ses deux garçons, Ali et Samsor, et sa femme, Bibi.
J'ai entendu à la radio que ce serait plus simple pour les réfugiés de se rendre en Grande-Bretagne, parce que si les Britanniques quittent l'Union européenne, ils retireront leurs soldats de la frontière française, et les contrôles policiers seront plus souples qu'avant. J'ai essayé deux fois de passer en Angleterre, mais malheureusement, au troisième point de contrôle, on s'est fait repérer par des policiers français. Ils nous ont attrapés et nous ont ramenés dans la jungle.
Tout près de la jetée de Calais, les ferries entrent et sortent du port. Une glace à la main, Sabine n'y fait pas attention. Elle sait que le Brexit ne remet pas en cause la frontière fixée à Calais, mais elle estime qu'il est temps de renégocier les accords du Touquet.
Il faut tout remettre à plat. De toute façon, c'est sûr qu'on est dans une impasse. Pour sortir de là, ce sera difficile. Mais de toute façon, on n'a pas de solution pour ces gens qui sont là dans l'attente et dans la misère. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'Eldorado anglais et on n'a pas de solution. Mais puisqu'ils veulent sortir de la zone euro, qu'ils reprennent leurs frontières avec. Déjà, ce sera déjà un bon point.
La barbe blanche, des lunettes de soleil sur le nez, Philippe est déçu par le choix des Britanniques. Il estime que ni le Brexit, ni la renégociation des accords du Touquet ne sont des solutions à l'enjeu migratoire.
L'accord du Touquet, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait secondaire par rapport à cette question de l'accueil qu'on vivre vis-à-vis de tous ces gens qui attendent aux frontières de l'Europe pour les intégrer.
Ce mercredi, pourtant, devant les élus locaux, Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, l'a répété, la renégociation des accords du Touquet n'est pas à l'ordre du jour.
Les rituels d'exorcisme ne font pas encore partie de l'histoire en Moldavie. Ils sont même quotidiens dans le monastère de Saharna, à l'est du pays. C'est un récit de Simon Rico.
C'est devenu un rituel à Chișinău, la capitale de la Moldavie. Tous les jeudis soirs, au coucher du soleil, des taxis collectifs quittent le centre-ville et prennent la route en direction du monastère de Saharna, à une centaine de kilomètres au nord-est. À leur bord, des fidèles qui veulent assister aux célèbres séances d'exorcisme. Depuis 20 ans, le pèlerinage s'est même transformé en un phénomène touristique et sur place, l'ambiance ressemble plutôt à celle d'une grande foire religieuse. Les gens déambulent au milieu des bougies, passant de chapelle en crypte, certains se baignant dans un bassin dominé par une immense croix en métal. Ensuite, tous se retrouvent devant un autel en bois où officient quatre prêtres. Dans l'assemblée, des grognements, des cris et des défaillances rythment la cérémonie, provoquant tantôt de la crainte teintée de respect, tantôt une franche moquerie. Les séances d'exorcisme sont très courues en Moldavie et elles se tiennent dans divers lieux de culte du pays. En 2015, une vidéo avait fait scandale sur les réseaux sociaux. On y voyait un prêtre chevaucher un homme pour le débarrasser du démon. Agacée, l'église orthodoxe moldave a fini par interdire ces rituels collectifs d'exorcisme, expliquant qu'ils étaient inefficaces et même contre-productifs. Ces cérémonies n'ont pour autant pas cessé. Au contraire, dans un pays où moins de 15% des habitants vont chaque semaine à la messe orthodoxe, ces rituels d'exorcisme attirent de plus en plus de jeunes. À 2h du matin, la cérémonie prend fin, c'est la cohue pour rejoindre les taxis collectifs qui foncent dans la nuit vers Chișinău. Et ces pèlerins retournent à leur quotidien, gardant le souvenir de cette soirée où les comportements les plus étranges ont été tolérés.
L'Allemagne n'ira plus au charbon pour défendre les énergies fossiles. Le charbon qui un temps avait eu bonne mine après la décision du gouvernement de sortir du nucléaire et l'arrêt de 8 réacteurs en 2011. La part du charbon dans le mix énergétique allemand était même montée jusqu'à plus de 45% en 2013. Cette source d'énergie polluante est à nouveau en recul. Le gouvernement a décidé de fermer quelques vieilles centrales à charbon l'année dernière et d'ici à 2019, 8 unités de production devraient sortir du réseau électrique. Alors si cette mesure reste très timide, elle inquiète dans les régions minières de l'Allemagne comme la Lusace dans l'est du pays. À Cottbus, la métropole de la région, on commence donc à préparer l'après-charbon. Déborah Berlioz.
La centrale à charbon de Jensfalde, non loin de Cottbus, fait figure de mastodonte avec ses 9 grandes tours. Chaque année, elle rejette plus de 26 millions de tonnes de CO2, mais elle va bientôt ralentir la cadence. 2 de ses 6 unités de production seront arrêtées en 2018 et 2019. Or, cette décision du gouvernement soulève des inquiétudes. Selon Wolfgang Krüger, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Cottbus, le charbon est indispensable à la prospérité économique de la région. L'entreprise suédoise Vattenfall y gère des mines et plusieurs centrales.
8000 personnes ont des emplois bien payés chez Vattenfall dans la région et 9000 autres sont employés chez ses sous-traitants et ses prestataires de services. Or, dans cette branche, on paye de très très bons salaires. Ce n'est pas le cas des autres branches d'activité de cette région où les salaires sont en moyenne 30% plus bas que dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest.
800 emplois risquent de disparaître à terme dans la région, mais les unités de production fermées seront maintenues en veille pendant 4 ans et l'État va verser au total 1,6 milliard d'euros en dédommagement aux entreprises concernées. Pour Harald Schwarz, spécialiste de l'énergie à l'université de Cottbus, cette mesure n'a donc rien de radical.
Dans la région, il y a encore la centrale de Boxwerk, celle de Schwarzpumpe, celle de Liebendorf. Donc c'est un signal politique pour montrer qu'on s'attaque au charbon. Mais cela ne va pas fortement ébranler la Lusace. Et je suis persuadé que les centrales à charbon vont continuer à fonctionner pendant au moins 30 à 40 ans.
Si les énergies renouvelables produisent déjà plus de 30% de l'électricité allemande, elles ont un problème majeur. Le solaire et l'éolien ne produisent pas d'électricité en continu. Et pour l'instant, il n'existe pas de solution pour stocker le courant électrique. Les centrales traditionnelles, au gaz ou au charbon, restent donc nécessaires. Philippe Tiertzoff, du syndicat de l'énergie IGBCE, estime que le lignite est la meilleure option. Pourtant, cette variété locale de charbon est très polluante.
Le lignite a de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est la source d'énergie la moins chère sur le marché avec le nucléaire. De plus, il est produit en Allemagne. Si je subventionne et dépense de l'argent pour le lignite, cela reste dans le pays et je reste indépendant des importations.
Des arguments qu'on entend souvent dans cette région alors que le reste du pays est de moins en moins favorable au charbon. Selon un sondage paru en décembre 2015, 68% des Allemands souhaiteraient son arrêt dès 2035. À la Chambre de commerce et d'industrie, on prépare donc la transition. Wolfgang Krüger appelle les entreprises spécialisées dans cette industrie à développer de nouveaux produits et services, mais ce n'est pas facile.
37 000 entreprises font partie de la Chambre de commerce et d'industrie. La grande majorité est constituée de petites et moyennes entreprises. Et quand je dis PME, je parle de 15 à 20 employés. Ces entreprises ont donc peu de capital propre et elles ont du mal à innover car elles n'ont pas de laboratoire de recherche ou d'ingénieurs spécialisés dans l'innovation.
En janvier dernier, la Chambre de commerce a donc créé la société Innovationsregion Lusace. Dotée d'1 million d'euros et de 4 employés, elle aide les entreprises de la région à se reconvertir. Et des idées ont déjà été développées.
Un cordiste escalade les tours des centrales pour y faire des travaux de nettoyage. Et si je peux escalader une centrale, je peux aussi grimper sur une éolienne pour y faire des travaux. Il faut juste que je trouve de nouveaux clients.
Le maire de Cottbus, quant à lui, compte beaucoup sur l'université technique de sa ville. Avec ses 8200 étudiants, elle a un fort potentiel d'innovation, selon Holger Kelch.
Notre objectif est de retenir à Cottbus les entreprises qui peuvent se créer au sein de l'université. Par exemple, il y a 8 ans, 3 étudiants en informatique se sont lancés et ont développé et testé le logiciel de sécurité informatique utilisé par Airbus. Et aujourd'hui, ils emploient 35 ingénieurs.
Malgré tout, le futur de la région reste incertain. Mais le maire refuse de céder au pessimisme. Selon lui, il y a définitivement une vie après le charbon, même en Lusace.
Absolutely, totally useless, unnecessary. Nobody needs them, and this is why they have this irrational, absolutely inexplicable freedom. It's not propaganda, it's not messages, no anything. It's only feeling.
Encore quelques jours pour marcher sur l'eau du lac d'Iseo dans le nord de l'Italie. Christo, le célèbre artiste connu pour ses œuvres monumentales, a dessiné des passerelles floating piers sur lesquelles il est possible de se promener de jour comme de nuit. La passerelle est victime de son succès, contraignant les autorités locales à en limiter l'ouverture, Mathilde Villain.
Marcher sur l'eau grâce à Christo, le titre a fait les délices de la presse italienne car dans la langue de Dante, l'artiste adepte des œuvres monumentales a un homonyme qui n'est autre que Gesù Cristo, Jésus-Christ, celui qui, selon les évangiles, avait déjà marché sur l'eau en premier il y a plus de 2000 ans. Et si certains n'hésitent pas à filer la métaphore et à parler de miracle pour décrire l'œuvre de Christo, le système de passerelle de plastique qui permet de se promener sur l'eau est peut-être juste une idée de génie. En tout cas, l'installation a suscité un véritable engouement du public. 5 jours après son inauguration, plus de 250 000 visiteurs avaient déjà parcouru les 3 kilomètres de cubes de polyéthylène orange, bien au-delà de toutes les espérances des organisateurs, qui ont dû d'ailleurs, in extremis, se plier à un arrêté préfectoral qui en a interdit les visites de nuit, car les pontons montraient des signes d'usure précoce. L'œuvre éphémère dormait depuis longtemps dans les tiroirs de Christo. Sa réalisation a coûté 15 millions d'euros, financée par des ventes de dessins et de maquettes. Et l'accès est totalement gratuit pour le public, qui qui peut vivre ainsi une expérience unique, artistique et surtout sensorielle. Les visiteurs sont invités à enlever leurs chaussures pour emprunter les passerelles. Passerelles d'un jaune-orange qui rappelle d'ailleurs la couleur des gilets de sauvetage. Et des lycéens de Bergame, un brin utopiste, ont d'ailleurs suggéré qu'un tel pont flottant puisse être déployé dans le canal de Sicile pour permettre aux migrants et réfugiés de rejoindre l'Europe. À pied.
Just try it. Play the record over again right now.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Alors ce n'est pas habituel, vous nous emmenez en Albanie.
Vlashem Zata, c'est un auteur-compositeur franco-albanais qui vient de publier Anna, son premier album, mais qui peut déjà s'enorgueillir d'un beau parcours, débuté très tôt en Albanie, où il commence le piano dès 5 ans, encouragé par son père, qui est musicologue et chanteur lyrique. En 2002, Vlashent Zata s'installe en France où il poursuit et achève tous les cycles du conservatoire avant de devenir lui-même professeur, mais sans jamais perdre ses envies de composition et d'écriture, il collabore avec des chorégraphes, cinéastes et metteurs en scène avant d'interpréter ses propres chansons sur scène puis en studio. Elles sont aujourd'hui à mettre entre toutes les oreilles, à la fois légères et intenses, classiques et modernes, frôlant avec élégance le jazz et la bossa.
La proposition musicale de Vincent Théval cette semaine, l'extrait de Anna, premier album de Vlashent Zata. Toute cette semaine, Accent d'Europe a été réalisé et mis en onde par Françoise Grelot. On se retrouve lundi dès 17h40 en universel et tout le week-end sur RFI.fr à la page émission.